essayer sans micro, sans si micro. Ça vous ennuie pas, si vous entendez bien surtout. La plaie avait déferlé sur le monde peu de temps après l'extinction de 2105. C'est une date approximative en fait, car le dernier animal sauvage avait agonisé depuis un moment lorsqu'on s'en aperçut. Tout avait été si progressif. À cette époque-là, les réacteurs Aliscamp commençaient à peine à nous dispenser enfin l'énergie gratuite et non polluante qui aurait prévenu cette catastrophe si on les avait découverts plus tôt. Les mers n'étaient plus que des cloaques où nul n'aurait pu voir avec un microscope. Et brutalement, nous n'avions plus que les rats, les cafards et quelques insectes aussi résistants que répugnants comme colocataires de la terre. Pourtant, cet ultime voisinage sembla ne pas être destiné à perdurer non plus, car le joueur de flûte naquit. Le joueur de flûte, ainsi que l'avait surnommé le service publicitaire de son employeur, fut le premier plagueur. Il avait des affinités avec les rats. Partout où il se rendait, les rongeurs affluaient en masse, désertant les caves et les greniers, leurs abris, depuis qu'ils avaient lié leur destinée à la nôtre en des temps immémoriaux. Le joueur les attirait à lui et il ne le quittait plus. Le joueur de flûte n'était pas un blagueur, tout à fait classique, comme il en viendrait à sa suite, en ce sens qu'il séduisait une espèce encore présente. On se borna à remarquer à l'époque que les animaux en sa compagnie avaient le poil brillant et l'œil vif. Malgré leur exceptionnelle résistance, les rats n'étaient pas plus insensibles que nous au dérèglement dont la planète était victime. Même un rat finit par avoir besoin d'air à peu près respirable ou de nourriture relativement saine. Plus que n'importe lequel de ses successeurs, le joueur était en prise directe avec ses bêtes, dans une relation quasi symbiotique qui eut finalement des conséquences tragiques. Sa mère eut l'idée de louer ses services à une entreprise d'assainissement. Il nettoya Paris en moins d'un trimestre, puis tomba gravement malade avant que quelqu'un prenne l'initiative de l'emmener à Lyon. L'afflux soudain des rats lyonnais le sauva in extremis. Il mourut à 30 ans, au même instant que le dernier muridé américain, après avoir pareillement purgé l'Asie et l'Afrique. On n'eut pas le temps de le transporter en Australie, où il était pourtant attendu avec impatience. Ses successeurs furent plus spectaculaires et moins sensibles. Et surtout, ils apparurent d'un coup nombreux, comme si le joueur avait été une tentative, un prototype, avant d'être sorti en série sans défaut majeur ou vice de construction rédhibitoire. Une gamine fit pleuvoir des grenouilles. Une autre des sauterelles surgit de nulle part, puisque les deux espèces étaient éteintes. Certains se contentaient de marcher et les champs reverdissaient brièvement sur leur passage. D'autres allaient, flanqués d'insectes ou d'animaux plus gros, parfois vraiment plus gros, tel ce gamin qui était toujours accompagné d'un trio d'éléphants d'Afrique aux défenses impressionnantes. La chose était maintenant plus étonnante, était d'autant plus étonnante qu'elle se passait dans une bourgade perdue de Bretagne. On s'aperçut bientôt que les plagueurs n'étaient pas seulement liés aux êtres vivants. Quelques-uns avaient des prédispositions pour les éléments, l'eau, l'air ou le feu, ou parfois la couche terrestre elle-même. Cela était très dangereux pour eux-mêmes et leur entourage, car ils ne maîtrisaient guère les expressions de leurs affinités. Les scientifiques, à la recherche d'une explication rationnelle à ces prodiges, découvrirent une séquence génétique commune à tous les adolescents à l'origine de ces phénomènes. Mais cette combinaison, outre qu'elle changeait de localisation pour chaque individu, apparaissait en même temps que la manifestation extérieure. Aucun enfant n'était prédisposé génétiquement à être un plagueur. Les thérapies échouèrent les unes après les autres. Lorsque les marqueurs de la plaie étaient éliminés quelque part, ils réapparaissaient presque instantanément ailleurs. Et cela même était impossible en soi. Un des chercheurs dépassés déclara à la presse: on dirait que quelqu'un tourne une clé dans notre génome. Les médias firent leur chou gras de cette déclaration, tandis que les scientifiques jetaient l'éponge aux religieux, qui en furent tout aussi embarrassés. Ces gamins n'étaient pas des miracles très probants, ils créaient plus d'ennuis qu'autre chose. Cependant, ce furent ces mêmes religieux qui donnèrent son appellation au phénomène, la plaie. Ceux qui en étaient atteints devinrent les plagueurs, par une maladroite anglicisation du français et un jeu de mots déplorable.
Bravo.
Voilà, comme ça, on a un peu planté le décor. Tout le monde a vu Plagueis ? Pas. Eh bien, il va falloir réparer ça juste après cette conférence. Vous l'avez vu dans l'extrait, hein, le roman de Jeanne est assez riche, puisqu'on va parler de gens qui ont des espèces de mutations génétiques avec des sortes de pouvoirs et qui vont devenir des parias. Juste pour compléter un petit peu la présentation de nos deux intervenants, vous n'avez pas lu Plagueis et c'est mal. Peut-être avez-vous lu d'autres romans de Jeanne, comme La vieille anglaise et le continent, Éden en sursis, Métaphysique du vampire, Stratégie de réenchantement, qu'on vous conseille et qui seront à l'accueil, à la sortie, tout du moins. Et puis juste un petit mot pour présenter Claude, qui est maître assistant de biologie à l'Institut de psychologie et de sociologie appliquée, avec des spécialités en neurosciences et éthologie, et qui est aussi amateur de science-fiction. Grand amateur de science-fiction.
Exactement. On pourrait même dire que j'ai lu la science-fiction même avant que j'ai étudié, que je suis devenu enseignant de biologie à l'université.
Donc on va un peu se balader dans le roman, on va un peu se balader dans les thématiques de ton roman, Jeanne. On va parler de génétique, de mutation, de différence aussi. Une fois que les enfants seront couchés, si jamais il y a des gens qui ont moins de 12 ans dans la salle, on parlera peut-être même un petit peu de sexe. Enfin, vous le dites, hein, si vous n'avez pas d'autorisation parentale ce soir, on peut régler ça assez facilement avec la médiathèque. Et puis on va évidemment faire des liens et des passerelles avec les sciences. Juste peut-être un point au tout début sur les références, parce que tout à l'heure on discutait avec Claude et ça lui a évoqué pas mal de bouquins. Dans cet aspect de différence, mutation génétique, est-ce qu'il y avait des influences ou des livres qui t'ont marqué, qui t'ont servi peut-être pour faire Plagueis ?
Alors très clairement, il y a une influence
vous entendez,
très ancienne qui est Aristophane. Attends, je l'ai allumé, il fait toc-toc quand je tape.
Ah bah ben voilà.
Tu vois, alors il faut que je parle comme ça. Vous l'entendez bien,
Marc ? Essaye le mien.
Allô ? Oui, voilà. Ça c'est mieux ça. Donc très clairement, il y a une référence extrêmement ancienne qui est Aristophane. C'est tout le mythe de l'âge d'or. Les hermaphrodites de l'âge d'or qui sont des hommes complets et qui seront séparés ultérieurement pour former les hommes et les femmes, on les retrouve là dans Plagueis avec les uns et les multiples. Je dirais qu'il y a une forte influence de Nathalie Enberg à cause du nom. C'est une auteure française que j'ai adorée quand j'étais jeune et elle m'a énormément marquée, et quelque part, Plagueis part d'une scène qui n'est pas dans le roman, mais qui l'était au départ. Enfin, je ne suis pas très claire là. Je l'ai écrite pour le roman, mais je l'ai sortie après parce qu'elle ne fonctionnait pas. Et elle était tirée de Nathalie Enberg. C'est un dieu tombé qui reçoit les rayons cosmiques et qui est infiniment torturé. Je ne l'ai pas mis dans le roman, parce que ça ne collait pas, mais c'est de là qu'est parti Plagueis, en fait. Et le jeu de mots déplorable aussi, d'ailleurs. Mais ça, j'avoue que j'ai un faible pour les jeux de mots pourris, donc je ne peux pas écrire quoi que ce soit sans qu'il y ait un jeu de mots quelque part planqué, de préférence très mauvais. Sinon, c'est moins bien. Voilà. Et j'aime beaucoup Sturgeon aussi, et tout l'aspect fusionnel. Je crois que, quelque part, de façon très inconsciente, je l'ai emprunté à Sturgeon. Donc, pas Cristal qui songe, mais les plus qu'humains. Ouais. Voilà.
Vous m'entendez ? Non. Voilà. Celui-ci marche ?
Attends, je vais voir.
Bon, on va se repasser.
Il faire casser celui qui marche.
Bah oui.
Donc, dans Plagueis, on va suivre deux adolescents qui se découvrent des plaies, des espèces de pouvoirs, et qui vont être parqués dans une sorte de prison réserve. Les mots ne sont pas tout à fait adaptés à ce que c'est véritablement. On a commencé à parler, évidemment, des thématiques sur la différence mutation génétique, les influences de Jeanne. Claude, en tant qu'amateur de SF, tout à l'heure, tu nous disais que ça te faisait penser à quelques romans.
Bah, j'ai deux, trois. Romans, hein. Oui.
Avec le micro.
Bah, j'ai,
Avec le micro.
Je ne sais pas si nous n'avons pas parlé de même chose. Hein, oui.
Avec le micro.
Alors, avec
le micro.
Le micro, là, oui.
Mais le tien fonctionnait, non?
Je me suis dit qu'il ne devait pas être branché ou la chaîne.
Ah bah, si, normalement, il était.
On va essayer, on va essayer.
Là, j'entends. Ah,
hein. Vous avez des mégaphones à la médiathèque.
Alors, on peut dire qu'il y a un roman récent. Moi, j'en ai lu qui a monté très longtemps. Donc, j'avais des bibliographies jusqu'en 1948. Mais on va prendre un tout à fait récent. C'est Les chaînes de Darwin de Greg Bear, où nous avons des enfants qui sont, on va dire, l'humanité future. Et qui ont des pouvoirs particuliers, et notamment des pouvoirs de communiquer entre eux. Ils ont des rougeurs sur le visage qui vont pouvoir se communiquer leurs sentiments beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement avec leurs semblables. Et puis, ils émettent aussi des phéromones, c'est-à-dire des substances qu'on ne peut pas sentir, mais qui ont des effets. Et justement, ce sont des phéromones pacifiantes et qui inhibent l'agressivité des humains ordinaires. Mais on se rend compte que ces enfants ont ces pouvoirs en jeu inquiétant, et ils vont être, comme les malheureux de ton roman, Jeanne, ils vont être parqués dans des réserves. Et puis un gouvernement super autoritaire va même envisager de les faire disparaître.
C'était une envie justement de jouer avec les pouvoirs et les conséquences des pouvoirs.
De toute façon, quand on est fan de SF, le super-héros, c'est quand même l'entrée principale dans la science-fiction. Donc évidemment, les Plagueurs sont des super-héros, mais des super-héros ratés. D'abord, ils ne font pas usage de leur pouvoir ou très peu. Ça m'a d'ailleurs été reproché par quelques amis qui avaient envie du grand fight final à la X-Men, en disant que vraiment c'était dommage, il y avait de quoi faire. Mais non, c'était pas ça l'intérêt de la chose. Enfin, pas pour moi. Et ce qui m'amuse dans ce que tu dis, c'est que de tous les romans que tu as cités, quand on était ensemble tout à l'heure, c'est L'échelle de Darwin est le seul que j'ai pas lu. Mais bon, je vais le lire parce que j'adore les histoires de super-pouvoirs. Et puis finalement, je reste persuadée que les super-pouvoirs, en fait, on les a. C'est jamais que ce qu'on a déjà de façon amplifiée. Quand on regarde les X-Men, ils ne font que voir plus loin, courir plus vite, voler plus haut, mais on peut quand même le faire, ça, en plus. Finalement, c'est nous. Voilà.
Alors, je dirais que moi, je suis plutôt un amateur de science-fiction vraisemblable, de science-fiction scientifique. Il y a un terme pour désigner ça, c'est la hard SF, c'est-à-dire la science-fiction qui utilise la science vraisemblable. Il y a un continuum qui va vers une science-fiction plus libre et qui se rapproche du fantastique, par exemple, parce qu'on peut dire que finalement, les histoires de super-héros telles qu'on en voit dans les films, c'est du film fantastique, un petit peu comme un vampire va avoir certaines capacités. Comme par exemple de se transformer en un vol de chauve-souris ou en loup, par exemple.
Sauf que dans les histoires de super-héros, tu as toujours une explication vaseuse et rationnelle. Alors que pour les histoires de vampires, la conservation de la matière, par exemple, zéro. Hein, on ne nous dit même pas que le vampire se transforme en exactement tant de chauve-souris parce qu'il pèse exactement tant de kilos. Alors, ça serait pourtant logique. Hein. Mais cela dit, je suis comme toi, j'adore la science. Pour moi, c'est le cœur dur de la SF, c'est à partir de là qu'elle part. Ça n'empêche pas que j'ai une vraie tendresse pour mes lectures d'enfants, qui m'ont pourtant amené à la science après. Alors évidemment, l'explication selon laquelle l'araignée devient Spider-Man, devient un super-homme parce qu'il a été mordu par une araignée radioactive, ça passe à 8 ans. Après, ça passe moins bien. C'est clair, il faut un peu plus déguiser son propos après.
C'est vrai qu'il y a eu une époque où on ne savait pas trop ce que pouvaient faire les radiations, par exemple.
Voilà.
Donc on s'attendait à toutes sortes de choses. Puisque finalement, les radiations, qui étaient très, très répandues à la belle époque de la science-fiction, on pouvait leur attribuer à peu près tout. Par exemple, vous avez un roman qui s'appelle L'homme qui rétrécit. Il est passé dans un nuage radioactif et puis il se met progressivement à diminuer de taille et puis il finit par disparaître infiniment petit.
On pourrait réécrire L'homme qui rétrécit, mais on lui trouverait une autre explication. Et ça serait très amusant aussi. Mais ça n'est toujours pas de la hard science, ça. Et en revanche, ce qui est quand même déprimant, c'est de se dire qu'ils sont passés quand même à côté des vrais dangers. Est-ce que on pense à Marie Curie, à son laboratoire toujours, comment dire, on ne peut plus y rentrer, on ne peut plus toucher aux notes de Marie Curie parce qu'elles luisent toujours dans le noir et pour un certain temps.
À l'époque, on pensait que le radium allait tout guérir. Hein. Oui, oui. On faisait des montres avec un cadran de radium parce que ça permettait d'avoir la lumière tout le temps, de cueillir la lumière, l'obscurité. De nos jours, on serait horrifié par des choses pareilles. Hein.
Ce qui est intéressant dans ton roman, c'est qu'en même temps, on l'a lu dans l'extrait, le micro ne marche pas, hein. Ben, je vais parler fort. Dans le roman, dans Plagueurs, on l'a entendu dans l'extrait, tu donnes quand même des éléments scientifiques,
ah oui,
avec des mutations génétiques aléatoires, entre guillemets, avec une séquence qui se balade. Tu avais envie de cette crédibilité-là, ou tout du moins de s'appuyer sur ça?
Alors, je ne conçois pas un roman de science-fiction autrement. J'entends par là que ce que je donne comme explication est totalement farfelu, hein, on est bien d'accord. Simplement, je me suis arrangée pour que ça ne soit pas... J'ai suffisamment tordu la langue dans tous les sens qu'on ne puisse pas trop nous contredire. Voilà. Parce que, par exemple, le changement de place des marqueurs, etc., ça n'a pas de sens. En vrai, hein, si on prend les théories de biologie génétique, mon voisin m'approuvera là-dessus, ça n'a pas de sens, mais comme ça n'a pas de sens, on ne peut pas le contredire. En revanche, j'utilise un langage et j'utilise des concepts qui existent. En tant que lectrice jeune autrefois, je voyais très bien, j'avais jamais eu de problème à voir le moment où l'auteur de SF décoller de la réalité scientifique pour aller vers la poésie. Pour moi, c'est ça que je fais également. Je m'appuie sur des choses qui existent et on doit sentir le moment où je donne un coup de talon pour aller plus haut, pour aller vers la poésie, vers la littérature, vers la métaphore. J'utilise pareil dans Plagueurs un argument vaguement physique qui est la théorie des supercorps, puisque les réacteurs à l'instant tirent leur énergie des dimensions non exprimées de la réalité. Tout le discours m'a été fourni par un ami physicien. Et il a fait très attention à mes phrases, non pas pour qu'elles veuillent dire exactement quelque chose, mais pour qu'elles ne disent pas de conneries. Et qu'on ne puisse, on ne puisse pas trouver trois personnes dans le monde capables de démontrer que ce que j'ai dit était impossible. Mathématiquement ou physiquement, sauf trois fous enfermés dans un asile. Donc, le fait est que c'est de la poésie qui a pratiquement rien de crédible dans l'usage des réacteurs à l'ISCAN, mais ça part sur une théorie physique réelle, voilà. Et ça a été validé par Éric Pichot.
De toute façon, Jeanne, il te sera beaucoup pardonné parce qu'il y a des grands noms de la science-fiction qui en ont fait autant dans le passé. Si par exemple, vous êtes amateur de science-fiction, peut-être vous connaissez les noms de Isaac Asimov, Arthur C. Clarke et Robert Heinlein, qui sont les trois ancêtres, les trois grands noms de la science-fiction. Et Asimov avait fait à une époque un roman qui n'est pas très connu, mais sur lequel on peut mettre la main, qui s'appelait Les dieux eux-mêmes. Bon, on a tronqué une citation, contre la stupidité, les dieux eux-mêmes luttent dans le vin. Voilà. Et où il met en scène justement un engin qui permet de fournir de l'énergie quasiment gratuite, une sorte de pompe à électrons qui ouvre notre univers sur un autre univers et qui fonctionne grâce aux électrons qui donnent de cet autre univers. Et puis on se rend compte finalement qu'à force d'ouvrir entre les deux, on court à la catastrophe. On y reviendra parce qu'il y a d'autres sujets qu'on va pouvoir voir, la sexualité, etc.
Mais on a dit qu'on attendait que les enfants aillent se coucher. Un petit mot,
quand les enfants seront couchés.
J'avais complètement oublié l'argument des dieux eux-mêmes. Et on est très proches, en fait, avec Plagueurs. Et pourtant, je l'ai lu, mais je l'avais totalement oublié. Je te remercie.
Je suis un
vieux lecteur. Une question simplement au biologiste. Dans l'explication et dans l'extrait qu'on a lu, on parle de mutation génétique avec une séquence du génome mais qui n'est jamais au même endroit. Est-ce que c'est possible, ça, biologiquement?
Je me demande. D'abord, Jeanne, tu as très bien fait de ne pas donner de précision, hein, puisque finalement, dans les mutations, il y a quelquefois un simple un gène qui va muter, quoi, hein. Ou alors il peut y avoir des mutations plus amples, où d'un seul coup on va se retrouver avec une série de gènes en plus ou une série de gènes en moins. C'est quand on a un chromosome en plus ou un chromosome en moins. On a des malheureux qui nous côtoient, ce sont les gens qui ont un chromosome 21 en trop, ce sont les trisomiques 21, n'est-ce pas ? Donc c'est pas forcément bon d'avoir une mutation. En général, il y a un défaut quelque part, et la mutation ne fait pas d'un pouvoir. Par exemple, le pouvoir de produire de la mélanine, à ce moment-là, nous sommes, les gens qui ont perdu ce pouvoir, sont des albinos, parce qu'ils ne peuvent plus produire le pigment qui nous colore, ou qui colore d'autres peuples plus foncés. Et puis, il y a une maladie plus grave encore, qui est la phénylcétonurie, excusez-moi, je n'ai que ce terme-là pour la désigner, on dépiste tous les bébés à la naissance, tous les bébés ont un test qui nous permet de savoir s'il ne manque pas une enzyme qui, si on ne compense pas ou si on ne fait pas attention, pourrait entraîner une déficience intellectuelle grave. Donc le premier effet d'une mutation, tout simple, c'est de perdre un pouvoir, souvent le pouvoir d'utiliser une substance.
Mais dis-moi, ça me rappelle quelque chose, une histoire d'anémie calciforme, c'est ça ?
Alors, l'anémie à hémacie calciforme, non, ça c'est pas une maladie génétique.
Non, c'est pas une maladie génétique. Mais il y a une histoire. Alors attends, je vais essayer de me rappeler de ce que je veux.
Et c'est vrai que là nous avons un contre-exemple, effectivement, où c'est une mutation, où on peut avoir des avantages, effectivement.
Voilà.
Il y a des peuplades qui vivent dans les régions où il y a la malaria, quoi, hein, et ceux-là, ils résistent à la malaria. Parce que, pas ceux qui ont toute la maladie, ceux qui sont hétérozygotes, c'est-à-dire ceux qui ont un chromosome avec et un chromosome sans. Quoi. Donc ceux-là, ils vont être indemnes de
l'un comme de l'autre.
Voilà, c'est ça. Voilà. Alors évidemment, il y a des pertes, parce que ceux qui sont hétérozygotes, qui sont homozygotes
pour l'anémie,
les enfants, ils meurent en bas âge. Quoi. Les gens qui, comme nous, ou la plupart des Européens, n'ont pas cette mutation, sont exposés au paludisme, malaria au paludisme, bien sûr.
Hop. Dans l'utilisation de cette explication par la mutation génétique, moi, ce que je voudrais avoir, c'est un peu l'idée qui est de l'écrivain derrière. Quand on prend une explication comme ça à partir de héros qui ont des sortes de super pouvoirs, est-ce que l'idée c'est de renverser la réalité par rapport à ce que disait Claude, où aujourd'hui les mutations génétiques c'est plutôt des pouvoirs moins entre guillemets, ou est-ce que comme c'est un monde qui écologiquement est un désastre, si je veux dire, est-ce que le propos est plutôt sur l'écologie?
Alors, je suis souvent qualifiée d'écrivain écologiste, et c'est faux, dans le sens où ça n'est pas mon combat. Mais alors, pas du tout, même si je ne veux pas dire que c'est mal d'être écologiste du tout, mais ça n'est pas mon propos. Je constate des choses dans l'univers maintenant, là, je constate que nous courons écologiquement droit à la catastrophe. Lorsque je parle du futur, évidemment que je tiens compte de ce paramètre. Ça, c'est la base. Je ne vais pas inventer, sauf si je me mets à trouver les arguments pour faire une vraie utopie et pas une dystopie, mais je suis plutôt un écrivain dystopique. Donc, lorsque je vois le futur, je vois ce qui va arriver, a priori. Et c'est pas très réjouissant, donc effectivement, je bâtis un univers qui écologiquement est un cataclysme. C'est pas du tout mon propos, mais à partir de là, lorsque tout ce qui reste comme ressource vive, c'est l'humanité, il ne reste plus qu'à faire changer l'humanité. C'est la seule chose qui nous reste en quantité. Donc, c'était la logique, en fait, tu vois. Si on avait eu d'autres éléments, j'en aurais trouvé d'autres, mais il n'y avait plus rien. J'ai rasé le monde.
C'est clair que c'est le cadre n'est pas très gai, hein, vous l'avez compris. Voilà. Presque la prison est presque l'endroit est presque un paradis par rapport au dehors.
Ah oui. Ah oui, c'est ça qui ça m'a amusé par contre. C'était très facile de créer en fait un camp de concentration. Et puis j'avais pas envie de ça en fait. Donc en fait j'en ai fait un paradis clos dont tout le monde se fiche, mais c'est un paradis. Les plaigneurs pourraient très bien rester derrière leur mur et ne pas regarder dehors jamais à partir du moment où ils rentrent dans les réserves. Sauf que j'y fais rentrer une insatisfaite permanente qui ne rêve que d'en sortir, on se demande pourquoi, à part qu'elle est chiante. Mais ça, des gens comme ça, on en connaît plein, qui ne seront jamais heureux nulle part, quoi qu'il arrive. Il suffit qu'on leur impose un truc, même raisonnable, et tout est fini, et rien ne passe. Donc, mon héroïne est comme ça, elle est juste antipathique à fond. Les gamelles, on se demande pourquoi le héros a tel... peut-être parce que vraiment les emmerdeuses auront le pouvoir sur le reste du monde. Mais le fait est que j'ai effectivement créé un paradis à l'intérieur de l'enfer. Et ça m'a amusé de renverser ça, effectivement. C'était trop attendu que ça soit un camp de concentration, tu vois. Le côté qu'on retrouve d'ailleurs dans X-Men de persécution des super-héros, je l'ai abordé. Je l'ai désamorcé et j'ai fait autre chose. Voilà. Et après, j'ai fait Harry Potter chez les X-Men. Avec du sexe.
Vous avez compris pourquoi il faut lire, hein, dire ça. Très clairement. On va s'intéresser à un autre sujet scientifique, mais avant, je voudrais revenir. Vous avez compris, on a donc deux adolescents qui sont différents parce qu'ils ont des pouvoirs, qui vont se retrouver dans un camp de concentration qui n'en est pas un. On se demandera si c'est un roman du renversement peut-être aussi tout à l'heure, mais je voudrais qu'on finisse là-dessus. Il y a une période d'apprentissage, un apprentissage où à la fois ils sont livrés un petit peu eux-mêmes au tout début, où il y a des cours, et là je parle aussi un petit peu à l'enseignante, car Jeanne est enseignante. Est-ce que quelque part tu as aussi créé, ou tout du moins il y avait une réflexion sur l'enseignement, la manière dont on apprend les choses, et puisque là ils vont découvrir des choses sur leur état et sur le fonctionnement en lui-même de ce camp. Est-ce qu'il y avait de la pédagogie utopique là-dedans ou pas, tu vois? Est-ce qu'il y avait une réflexion là-dessus?
Alors, tout à fait, évidemment, puisque une fois qu'ils sont dans la réserve, ils vont devoir apprendre un collectif qui n'est pas répressif. Ce sont des individus très individuels et ils vont devoir vraiment apprendre des règles qui ne sont pas écrites, qui sont du consensus, qui sont de l'anarchie aussi. C'est une anarchie contrôlée, la réserve. Et on est dans la pédagogie totale et différenciée. À savoir que, à la fois, toutes les infrastructures sont prises en charge par tout le monde, et on laisse les nouveaux se débrouiller et apprendre tout seuls les règles. Et comprendre par eux-mêmes, dans leur corps, la nécessité du respect de la règle de l'autre. Alors évidemment, là, on est totalement dans une utopie pédagogique et politique. Mais ça, c'est mon vieux fond anarch qui parle, mon côté Roland Wagner, tu sais. Dans la saison de la sorcière, il y a une utopie de ce genre. On retrouve ça aussi sur l'onde de choc de John Brunner, une cité idéale qui s'appelle Précipice, qui fonctionne aussi sur la solidarité et la liberté. Et pour moi, ce sont des grands thèmes récurrents, avec la pédagogie bien entendu et l'amour du savoir, qu'on retrouve dans pratiquement tous mes romans et toutes mes histoires.
Roman d'apprentissage, donc, roman d'apprentissage sur ce qu'ils sont en eux-mêmes. Ton envie première, c'est véritablement cet apprentissage-là des héros, parce que tu les as choisis à 17 ans, là, ils rentrent à cet âge où on est un vieil adolescent et pas tout à fait un jeune adulte. Est-ce que c'est un roman sur le passage à l'âge adulte, quelque part?
C'est un roman sur le changement. Alors, la mutation, l'adolescence et la mutation par excellence. C'est pas forcément un roman sur l'adolescence. D'abord parce que je l'ai écrit, j'avais 40 ans, on ne parle pas de l'adolescence à 40 ans comme on aurait pu en parler à 30. C'est pas le prof qui a écrit ça, ça c'est clair. C'est vraiment le changement en soi, le changement vers être plus soi. être totalement soi-même et y arriver. C'est, le fait que ça soit des adolescents est plus facile et plus crédible pour le lecteur, si tu veux, mais c'est pas forcément mon propos non plus. Je pense que le cheminement que fait Quentin pour savoir ce qu'il veut, ce qu'il aime, ce qu'il est prêt à supporter, ce qu'il ne supportera jamais et ce qu'il désire, c'est un cheminement qu'on fait à tous les âges, et même à 50 ans.
Alors, les enfants sont touchés, justement. On va pouvoir parler de ce qui nous intéresse pour de vrai dans cette soirée, hein, on ne va pas se le mentir. Jusque-là, on attendait autour du pot. Non, c'est un roman qui parle aussi de sexualité, puisque la jeune fille qui est particulièrement emmerdante a un sexe d'homme. Ceci peut peut-être expliquer
en partie cela.
Donc, voilà, pardon, c'est un caractère affirmé. Comment tu as abordé justement ces questions de sexualité? On a l'impression d'un roman assez libre qui essaye d'aborder un petit peu tout. Donc on a une femme qui a un sexe d'homme, on a des hommes entre eux, on a des relations hétéro-classiques. Comment est-ce que tu l'as construit là-dessus? Enfin, tout du moins, quelle vision et quel angle tu voulais pour ça?
Alors, il m'a paru évident que dans un environnement libertaire, toutes les sexualités pouvaient et devaient s'exprimer de la façon la plus naturelle qui soit. Et c'est ce qui se passe dans Plagueuse. À savoir que les gens sont ce qu'ils sont. Ils sont homosexuels, ils sont hétérosexuels. Et quand ils ont un problème d'identification, ils attendent que ça se passe et ils attendent de voir comment ça se développe. C'est exactement ce qui arrive à Quentin, qui donc tombe amoureux d'une fille qui est transsexuelle, en fait. En fait, ce qui arrive à Ilia, c'est qu'elle a eu la plaie et ses parents ont imaginé de la transformer totalement au niveau chromosomique et d'en faire un homme pour voir si ça renversait la mutation. Et ça ne marche pas. Donc, elle arrive homme en devenir dans la réserve avec une haine féroce contre son corps et un désir de fuite totale. Et Quentin tombe totalement amoureux de cette fille qui cesse d'en être une au fur et à mesure du roman. Elle est encore féminine, mais de plus en plus, ses épaules vont s'élargir, sa voix va devenir plus grave, la barbe va pousser, et Ilia va faire des crises à chaque poussée de masculinité, on va dire. Bien compréhensible, puisqu'elle n'a pas choisi, là, pour le coup. Autant, c'est pas un transsexuel qui a décidé d'aller vers sa véritable identité. C'est quelqu'un qu'on a forcé à assumer un rôle de genre qui n'est pas le sien. On voit ça tous les jours, de toute façon, chez les gens. Les gens qui sont forcés à assumer un genre qui n'est pas celui qu'ils ressentent. C'est « je l'ai fait comme ça pour contourner le problème de la perversion sexuelle que on nous ressort à chaque fois sur les problèmes d'identité de genre, c'est pas le problème d'Ilia. Et de toute façon, la sexualité, c'est absolument pas le problème d'Ilia. Son problème, c'est qu'elle est dans un corps qui ne lui va pas. Quentin, lui, il est amoureux de quelqu'un qui s'appelle Ilia et qui est pas forcément une fille. Il s'en fout, c'est Ilia qu'il aime. Quel que soit le service trois pièces que la nature ou les scientifiques lui ont donné, ce qui l'intéresse, c'est Ilia. Donc, pour moi, la passion, c'est ça, c'est aimer des gens et pas des sexes. Alors, c'est ça que je défends dans Plagueur, c'est que la sexualité s'organise aussi autour des gens qu'on aime. Et il se trouve que les gens qu'on aime ont un genre ou un autre. Voilà, cela dit, je suis une bisexuelle absolue, donc évidemment, ça se transparaît premièrement. Je n'ai pas ce... je n'ai pas de clivage en fonction des genres. Voilà. C'est ce que j'exprime dans mes romans. Et ce que je veux, c'est que ça paraisse normal, que tout le monde se foute de qui baise qui et comment. Voilà.
Alors, on pourrait développer toute une série de points sur la sexualité. Je me souviens que dans le temps, j'avais fait un cours sur la sexualité, là, et je commençais par faire un cours sur les différentes sortes de sexualité, des différents niveaux, quoi. On commençait par le niveau génétique. Est-ce qu'on est XX ou est-ce qu'on est XY, quoi. Ensuite, ça s'exprime ou ça ne s'exprime pas. Est-ce qu'on a Est-ce qu'on est anatomiquement masculin ou féminin? Il y a certains cas où on a des testicules féminisants, et donc le sujet, il est XY, mais il a tout à fait l'aspect féminin, quoi. Je n'ai pas entendu dire qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient masculins. C'est-à-dire que... Ils étaient tous surpris quand on leur disait « Mais vous avez un équipement chromosomique masculin. » Là, finalement, avec notre héroïne, elle se trouve avec un esprit féminin et qui reste féminin dans un corps masculin. Moi, je sais que si j'avais un bout de roman comme ça à faire, j'aurais développé sur les essais qu'elle aurait pu faire, de voir comment ça marche et la découverte d'une sexualité alternative.
Alors, oui, mais sauf que je ne voulais pas. J'aurais très bien pu, effectivement.
C'était sur des plus rigolo. Hein.
Oui, mais le but du jeu, vois-tu, c'était pas de montrer le cul. Il n'y a aucun cul dans Plaggers. On en parle beaucoup. Il y a un moment où deux copains font des trucs dans la pièce à côté, mais c'est absolument pas le propos de l'érotisme. En fait, voilà, je fais pas d'érotisme, je parle de sexualité. C'est ça la différence. Et je parle d'identité sexuelle. Mais effectivement, ça peut être rigolo d'aussi de faire l'érotisme, mais ça, à mon avis, ça parasite le sujet, en fait.
Alors, il y a deux romans où la question est traitée. Je crois qu'il y a un roman qui s'appelle La main gauche de la nuit, où le héros arrive en mission sur une planète où les gens sont neutres la plupart du temps, et puis dans une période de quelques jours, ils vont soit basculer du côté masculin, soit basculer du côté féminin. Donc dans cette planète-là, dans cette société-là, on n'est pas sexué. Mais l'émissaire qui arrive de l'Empire galactique normal, quoi, il est un homme, et il est masculin de manière permanente. Et du coup, aux yeux des habitants de cette planète, chez qui le sexe ne fonctionne que quelques jours par mois, il paraît comme un monstre. Quoi. Et il y a beaucoup de problèmes de compréhension parce que il y a cette polarité sexuelle qui n'existe pas dans le monde où Gilgamesh, c'est le nom de la planète en question. Et puis un autre roman assez récent qui doit s'appeler Triton, de Roger Delany, dans lequel les gens peuvent, s'ils le souhaitent, et il y a tout un savoir-faire biologique et de façonnage du corps qui permet de changer de sexe, et donc les gens vont avoir dans leur vie des périodes masculines, des périodes féminines, etc., alternatives.
Est-ce que biologie...
Alors quand même, on ne peut pas ne pas citer John Varley. John Varley, voyons, justement j'ai un trou. Enfin, John Varley a beaucoup traité les problématiques de genre et d'identité sexuelle. On a énormément d'héroïnes très fortes dans Varley, notamment Sirocco Jones, qui fait absolument tout ce qu'elle veut avec qui elle veut. Et ça, c'est à peu près en même temps que Delany, je pense.
Voilà. 70, ouais. Est-ce que biologiquement, la sexualité est incontournable?
Peut-être que de nos jours, il y a pas mal de gens qui se trouvent dans un corps d'un sexe et puis qui ont un esprit ou une mentalité ou une psychologie d'un autre sexe. On est en train de rechercher, et on est peut-être en train de mettre en évidence qu'à un moment donné du développement embryonnaire de l'enfant, il y aurait la sexualisation du cerveau qui se ferait ou qui ne se ferait pas. Peut-être qu'il y a des pollutions qui interviennent et qui font qu'à un moment donné, il y a une disjonction entre le sexe qui va devenir le sexe anatomique et le sexe psychologique.
Peut-être aussi que tout simplement la pression sociale sur le genre qui exige un certain comportement quand on appartient à un sexe et un autre comportement quand on appartient à un autre est tellement fort que on n'a plus que le changement biologique pour faire face à ces contradictions. Ça peut être ça aussi. On n'est peut-être pas face à de véritables problèmes génétiques sur le genre. On est peut-être face à du tout simplement à une espèce d'oppression totale sur les individus qui les oblige à adopter des comportements qu'ils ne veulent pas adopter. Et qui finalement, alors que ceux du groupe d'en face sont ceux qu'ils voudraient obtenir. Peut-être que l'idéal, c'est d'arriver à rendre tout le monde libre de son genre, justement. Peut-être qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes de vécu de son propre corps si ce corps-là n'était pas opprimé.
Un peu comme la société anarchique et imaginaire de Triton.
Et voilà. Voilà. J'avais pensé aussi à un roman que tu as peut-être lu, c'est La jeune fille et les clones de David Brin. Ça ne te dit rien?
Non, le titre me dit quelque chose, mais je n'ai pas trop lu.
Comme c'est mal. Alors, c'est très très intéressant, La jeune fille et les clones, parce que ça fait partie de cette vague des auteurs de science-fiction qui se sont attaqués au problème justement de la gestion du genre dans les années 80-90. Et David Brin imagine une planète où les femmes opprimées se sont enfuies. Elles ont été accompagnées par des hommes, mais ce sont des femmes qui sont au pouvoir. Et elles ont modifié génétiquement tout le monde, à savoir hommes comme femmes, de façon à ce que leur période de rut ne coïncide pas. Si bien que... Attendez. C'est complexe, hein. Parce que la véritable reproduction, c'est la reproduction par clone. On reproduit les femmes puissantes, intelligentes, cultivées, qui ont découvert quelque chose. Mais ces clones ne peuvent être enclenchés que grâce à l'aide masculine qui font démarrer l'embryon. Donc, on doit avoir copulation pour que le clone soit mis en route, si j'ose dire. En échange, les femmes portent les enfants des hommes, des garçons et des filles, qui sont hétérozygotes, normaux, comme vous et moi, mais ceux-là ne font pas partie de l'élite de la société. Ils sont abandonnés au clan masculin, qui sont quand même considérés comme de gentils bourrins,
inférieurs,
qui font de la marine, de la chasse, etc., un peu, et qu'on accepte dans les villes, mais à condition qu'ils se tiennent bien, et que de temps en temps, ils aillent dans les maisons des femmes pour leur faire des clones. Voilà. C'est très très rigolo comme façon de voir le truc, et ça règle tous les problèmes de violence sexuelle, en fait. Parce que personne n'a envie, personne, en dehors du clair problème de la reproduction. La sexualité est très peu récréative, on va dire, ce qui est dommage. Je ne sais pas dire en passant, mais bon. Mais c'est une façon pragmatique de régler le problème. Voilà. David Brin s'est fait sonner les cloches à l'époque par tout le lib américain pour ça. Hein. Parce qu'on l'a accusé de détourner le problème, d'être macho, etc. Donc moi, je lis ce roman et il n'est pas sexiste. Il dit juste, il y a un moment où la séparation reste quand même une solution. Ce qui est l'inverse de ce que je viens de dire.
Juste, je voulais savoir, en fait,
Non, ça va, ça va. Je ne connais pas le sujet. Pour l'instant, je ne vois pas comment le rapporter à une notion de sexualité que j'ai. Là.
En fait,
c'est assez compliqué, quand même.
Oui, non, mais il faut lire le roman, parce qu'il est passionnant, d'abord. Alors, c'est comme dans La main gauche de la nuit, tu as... Oui, pardon. Comme dans La main gauche de la nuit, le révélateur des problèmes de cette société... c'est un envoyé masculin de l'extérieur qui débarque dans la colonie et qui va constater que ça se passe pas si bien que ça finalement, mais pas si mal, et qu'il n'a pas le droit d'y toucher parce que c'est une société qui fonctionne.
Moi j'avais juste une question biologiste, hein, et je reviens sur Plager avec justement ces notions de genre et de sexualité. Est-ce que dans la nature, tout le monde, le règne vivant, on a des sexualités qui sont autres. Je ne parle pas forcément de...
Alors, bien entendu, il y a des espèces qui sont hermaphrodites, hein, par exemple. Vous avez des espèces où c'est vraiment très adaptatif d'être hermaphrodite. Hermaphrodite, par exemple, les escargots. Imaginez que vous ayez des escargots avec des mâles et des femelles. Ils ne roulent pas très vite, les escargots. Et donc, quand il s'agirait de rencontrer le sexe qu'on peut en faire. Et donc, c'est beaucoup plus économique d'être mâle. Parce qu'en fait, quand les escargots copulent, ce sont deux mâles qui copulent et qui vont introduire du sperme dans l'organisme du congénère. Puis un peu plus tard, ils vont rentrer dans une phase femelle où ils vont se servir du sperme reçu pour fertiliser leurs œufs. Et on comprend que, oui, il y a des choses comme ça pour les animaux très lents. Hein. On dit aussi que l'escargot a les tubes digestifs les plus puissants. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se dépasser beaucoup pour trouver des plantes tout à fait originales. Si jamais cet animal avait un régime très original, donc il a intérêt à digérer tout ce qu'il rencontre. Hein. Donc, continuer avec tout ce qu'on rencontre, de la même espèce, et puis manger tout ce qu'on peut trouver sur son chemin.
Et les phasmes ?
Les phasmes, alors c'est très différent. Les phasmes, c'est une adaptation, on va dire, c'est une adaptation à la défense. C'est un mécanisme de camouflage.
Non, je te parlais d'un parthénogène.
Les phasmes.
Ils sont parthénogéniques.
Ah, les phasmes. Je fais attention. J'en parle à mes étudiants lorsque j'aborde la question des modes de défense contre les prédateurs. Donc, les phases, je ne suis pas allé voir comment ils étaient. Hein.
Alors, d'après ce que j'ai compris, ils ont un système de parthénogenèse en l'absence du mâle. C'est-à-dire que les femelles peuvent se reproduire elles-mêmes seules. Voilà.
Oui, ça existe.
À l'identique, par contre.
Il n'y a pas que les phases. Il y a un certain nombre d'espèces comme ceux-là qui peuvent avoir une reproduction sexuée et puis qui, quand les femelles sont toutes seules, peuvent se reproduire par parthénogenèse, effectivement.
Et est-ce qu'en dehors de mâle et femelle, il y a un troisième sexe ?
Eh bien, alors, troisième sexe, sur Terre, je n'en trouve pas. Mais dans la science-fiction, il y en a. Il y a au moins deux romans. Il y a le roman de Isaac Asimov, justement, comment ça s'appelle ? Les dieux eux-mêmes. Donc il y a la deuxième partie qui met en scène les extraterrestres, enfin, même les extra-univers, qui vivent dans un autre univers, celui avec lequel on échange des électrons et qui donne une énergie gratuite. Quoi. Et donc chez eux, il y a trois sexes. Il y a l'émotionnel, le rationnel et le ou la parentale. Quoi. Et donc, alors à un moment donné, ces trois personnages vont fusionner et donner un autre être différent. Eux ils disparaissent et qu'ils donnent un autre être. Alors je vous recommande ce roman parce qu'il y a une scène d'amour, une scène érotique absolument fabuleuse, extraterrestre, avec les trois personnages en question, et c'est très bien fait. Hein. Donc,
c'est la seule d'Isaac Asimov. Absolument, dans toute l'œuvre d'Isaac Asimov, il n'y en a plus d'autres après.
Il a fait dans la littérature générale des essais sur la littérature érotique.
Des essais.
Un essai, comment dire, en anglais. Alors, il y a un autre roman, mais là, c'est plutôt incidemment qu'on parle de trois sexes. C'est Le Serpent du Rêve de Rhonda McIntyre. Nous sommes chez les auteurs femmes, n'est-ce pas ? Donc, on leur rend hommage en citant leurs ouvrages. Et donc, l'héroïne est une guérisseuse qui utilise. Alors là, la biologie explique des choses, quoi, et qui utilise des serpents pour soigner les gens. Donc elle a un crotal, elle a un cobra, et puis un serpent extraterrestre. Le serpent extraterrestre, lui, il a un petit venin, mais qui anesthésie le sujet. Donc, tandis que les autres, ils ont été modifiés génétiquement, et quand on leur injecte un extrait du sang du malade, ils vont, dans leur gland de venin, produire un médicament qui, injecté au sujet, va le guérir. Et puis bon, accidentellement, le serpent extraterrestre est tué, et donc elle va à la recherche. Et puis elle se rend compte qu'ils sont très rares. On les accouple, on les met par deux, etc. Et puis, ça ne s'accouple pas, ou ça se reproduit extrêmement rarement. Jusqu'au moment où, à un moment donné, elle arrive dans un endroit où il y a plein de ces serpents-là, puis elle voit s'accoupler par trois. Et du coup, elle comprend d'un seul coup que, évidemment, dans cette espèce-là, il y a trois sexes, et que ça ne marchera que si ils peuvent s'accoupler par trois. Et à ce moment-là, il peut y avoir moyen de multiplier ces petits serpents qui sont tellement utiles dans l'environnement post-apocalyptique où se déroule l'histoire.
Et écologique, puisque on ne construit plus de médicaments, on les fait produire biologiquement.
Oui, les choses seraient possibles.
Hein, ah, oui, oui, oui.
D'ailleurs, on utilise du venin de cobra actuellement pour traiter certains cancers.
C'est d'ailleurs ce qu'elle propose hein, à un moment. Dans le roman, il y a une tumeur cancéreuse qui est soignée par le cobra. Mais bon, c'est ce qu'on fait en créant des animaux qui produisent des enzymes, des protéines spéciales pour les médicaments. Des cochons en particulier, je crois.
Peut-être des cochons, mais je sais qu'on a modifié des animaux beaucoup plus simples. Il y a des bactéries à qui on fait produire de l'insuline, je pense, tout simplement.
Et il est question justement de cochons à insuline, un truc comme ça. J'ai lu ça dans Science et Avenir. Alors, Science et Avenir, c'est toujours un peu...
Vulgarisation, hein. Ben, en général, c'est pas trop faux. Ouais.
Non, c'est pas trop faux, mais il y a des moments où ils prennent carrément leur vessie pour des extraterrestres, donc je me méfie toujours un peu. Ils ont un rebord barjo dans Science et Avenir qu'on trouve pas dans Science et Vie. Tu sais, ils ont tendance à voir les étoiles un peu plus brillantes qu'elles ne sont.
Bon, on va quitter les cochons à insuline. On peut revenir un
petit
peu
à
Plagueurs, quoi, à notre cochon du soir. Donc, on a deux adolescents. On a des adolescents qui ont des plaies, des mutations génétiques, qui apprennent à vivre. Et quand ils sont prêts, ils fusionnent. Et deux êtres vont en faire un, ou trois êtres vont en faire un. C'est ce qu'on appelle les...
Les multiples. Les
unes et les multiples. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur cette idée de fusion, et puis on parlera de la cérémonie en elle-même, qui est quand même très érotique, moi j'ai trouvé.
Oui.
Mais d'abord sur cette idée de fusion, qu'est-ce que tu voulais mettre comme sens derrière ça ?
Pour moi, la passion amoureuse, mais aussi amicale, est une histoire de fusion, effectivement. Je suis quelqu'un de très fusionnel. Et les Plagueurs, pour moi, ils atteignent à la complétude lorsqu'ils rencontrent celui ou celle avec qui ils vont atteindre la fusion et devenir un ou un une. Et pas forcément, ça n'est pas forcément décidé. Par leur sexe de départ, il peut y avoir deux Plagueurs mâles qui vont donner une, parce que la somme de leurs identités sexuelles fait une femme. Même si à la base, c'est des garçons. C'est en fait, la fusion va réaliser leurs désirs réels, intimes, fondamentaux. Elle va forcer leur identité à se révéler, à se magnifier. Lorsqu'on passe au stade multiple, qui est le stade supérieur de la mutation, c'est-à-dire qu'ils acceptent un troisième personnage, voire un quatrième, voire un cinquième, parce qu'elle n'est jamais parfaite. C'est une mutation qui va vers la croissance, jamais vers la perfection totale, puisque la perfection, c'est la mort, on s'arrête. Lorsqu'on cesse de grandir, on meurt. Donc il faut continuer à vivre et à accepter des gens. Ça donne des géants, évidemment, puisque loi de la conservation de la matière. Donc, ils deviennent de plus en plus grands, de plus en plus complets, de plus en plus parfaits, mais c'est toujours une limite à atteindre. C'est on grandit ensemble en fait. C'est une métaphore sur tout simplement l'amour et le clan.
Alors, pour un scientifique, ça pourrait paraître bizarre que de deux êtres comme ça puissent se fusionner pour arriver à partir de la chimie. Mais en fait, quand on regarde ce qui se passe dans la nature, pourquoi pas ? Puisque, par exemple, si on regarde les insectes avec des transformations et des insectes à métamorphose, quoi, finalement, à un moment donné, on a la chrysalide qui est une sorte d'enveloppe avec au milieu, dans l'enveloppe, une sorte de bouillie de matière vivante qui va se reconstituer, qui va donner un être assez différent à la sortie, puisqu'on avait avant une chenille, puis à la sortie, on aura un papillon. Donc peut-être qu'on pourrait imaginer des systèmes semblables qui se seraient installés. Mais ça demandait quand même beaucoup de mutations.
Énormément de mutations.
Oui, on n'a pas d'exemple en termes ne serait-ce que cellulaires, par exemple, de cellules se regroupant pour en donner une.
Alors, ça existe, on en a déjà, hein, puisqu'on a des cellules qui sont en fait des cellules qui ont fusionné parce que certaines membranes qui les séparaient les unes des autres ont disparu. Notre cœur, par exemple, est une sorte d'immense cellule avec des noyaux, finalement. Bon, si on regarde comment il est fait, il y a toute une série de noyaux qui sont dispersés dans une masse de cytoplasme qui fait qu'en fait, on a à peu près la même quantité de noyaux de cytoplasme qu'on aurait si on avait des cellules individualisées. Mais le cœur fonctionne comme ça, quoi.
On aura
vous rassuré, hein, vous en avez aussi. Hein.
Tout va bien. Juste sur cette scène de la fusion, qui est quand même d'un érotisme torride, comment est-ce que tu l'as composée? Vous imaginez des corps qui fusionnent, et alors on peut lire des passages avec des seins qui apparaissent parfois, ou des bouts de membres. Comment est-ce que toi tu l'as conçu et imaginé? Et puis au-delà de ça, comment est-ce qu'on traite l'érotisme comme ça quand il est différent?
Alors, autant te dire tout de suite que je n'avais pas conscience que c'était érotique. Après, quand je me suis aperçue qu'on le lisait aux imaginales au moment, dans la scène qu'on lit lorsque les enfants sont couchés, je me suis dit, ah oui, tiens, quand même. Non, là, j'étais tout bêtement, stupidement rationnelle. Je me suis dit, tiens, comment est-ce que ça pourrait se passer visuellement? Et j'ai vu un tableau de Bosch, Jérôme Bosch. J'ai vu le Jardin des Délices et j'ai fait quelque chose qui avait cette ambiance-là, à la fois très étrange et très... Et c'est vrai, érotique, finalement, je me rends compte. Mais sur le moment, je ne l'ai pas vu, en fait. Tu vois, c'était... Je parlais de sexe tout autour, mais là, non. Ça, c'est le grand aveuglement de l'écrivain par rapport à son nombril, je pense.
Parfois, il y a des choses sexuelles qu'on ne voit pas forcément.
Oui, tiens, voilà. Parce qu'il y a un loup, mais on ne l'a pas vu.
Donc, du point de vue biologique, on peut dire que l'espèce humaine a besoin de plus de sexe que les autres espèces. Hein. Je me souviens avoir donné un jour comme sujet d'examen à mes étudiants, peut-on dire que les animaux ont une sexualité débridée, quoi. Alors, ceux qui avaient bien compris la question devaient au contraire me démontrer que c'est l'espèce humaine qui a une sexualité débridée beaucoup plus que les animaux. Parce que chez les animaux, il y a une hiérarchie qui va faire que seulement certains, les mâles les plus dominants, pourront avoir accès aux femelles, par exemple. Les femelles, ensuite, en plus, vont être
réceptives. Au risque d'être des allergies, je te signalerai que dans notre monde, c'est aussi pas mal les mâles dominants qui ont accès aux femelles. Hein. Mais bon.
C'est
moins net, hein, mais.
Et puis il y a aussi les femelles qui sont réceptives qu'une partie du temps, ce qui fait que les mâles ne peuvent faire crac-crac que par la femelle est
réceptive. Ça aussi, on pourrait en parler. Mais bon, mais je pense que pour les femelles, c'est surtout une question de mauvaise éducation, les pauvres chéris. On leur a fait croire que ce n'était pas pour elles.
Mais dans le fond, tout ça, ça a été en quelque sorte sélectionné. Ça. L'évolution a fait qu'en un certain nombre de centaines de milliers d'années, la sexualité humaine s'est installé de façon à établir un lien entre l'homme et la femme. Finalement, il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens d'un couple qui dure et dont la durabilité a en fait pour fonction d'entretenir les enfants.
De protéger les enfants, oui. Voilà. C'est comme ça qu'on a ravagé la planète. On a eu un avantage évolutif énorme, la disparition de la période de Ruth et la surveillance des enfants. Voilà, et résultat, on est 10 milliards.
C'est pour ça qu'on les a envie de se coucher.
Bah oui.
Bon, Claude, tu l'as dit.
Mais ça va.
Très bien. Vous l'avez compris, roman très très riche. Il est déjà 21h41. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que ça vous évoque des réflexions sur les minutes qui nous restent? Vous avez tout compris à comment marchait la sexualité dans Plagueurs et le roman d'apprentissage. Avec le recul, Jeanne, parce qu'il est sorti, aide-moi, il est sorti
2010,
c'est-à-dire que tu l'as écrit en 2009.
2007.
2007. Avec le recul, quel regard tu portes sur ce roman? Et t'as jamais eu envie d'y revenir, entre guillemets, avec les héros?
Alors, c'est un roman qui est loin de moi, parce que... il parle d'un amour qui est mort, depuis, déjà, pour commencer. Autant toute la conception externe, on va dire, à la passion de Quentin pour Ilia, qui prend en charge cet amour-là, est toujours valide dans ma tête, évidemment, puisque c'est ma façon de voir le monde dedans. Autant il y a énormément de choses sur lesquelles j'ai changé, et énormément par rapport à Plégueux. Quelque part, c'est vraiment un roman sur la mutation, parce que une fois que je l'ai écrit, j'étais grande et libre. Donc c'est pas seulement le changement de Quentin et la découverte de ce qu'il est qui s'exprime dans ce roman, mais la mienne. Mais je ne suis plus Quentin depuis longtemps. Voilà. Alors il y a ça. Soit dit en passant, il m'est beaucoup plus facile de me projeter dans des personnages masculins que dans des personnages féminins, parce que pas parce que je n'aime pas les rôles de femme, mais parce que je m'y sens plus libre dans cette société-là. Voilà. C'est pour ça que la plupart du temps, mes héros sont des héros masculins. Ils ont accès à un éventail de comportements beaucoup plus large qu'une femme. Il me manque une partie de ma réponse, parce que j'ai oublié une partie de ta question à la fin.
Sur le comment est-ce que tu vois, et est-ce que tu auras envie d'y revenir?
Ah oui, ben voilà. Eh bien non, justement. du coup, non. Et puis, de toute façon, mon seul héros à série, c'est Navarre, de Métaphysique du Vampire, qui est un héros fun, où je me suis vraiment amusée à jouer avec tous les genres. Mais pour le reste, je préfère les one-shot, en fait. Navarre, c'est une énorme plaisanterie et un essai littéraire. Je peux jouer longtemps avec ce perso. Et puis bon, il a les épaules pour ça.
On peut peut-être dire qui c'est.
C'est dans un roman qui s'appelle Métaphysique du Vampire, un vampire qui est un assassin pour le Vatican. Lorsqu'il y a un monstre à décaniller, on envoie Navarre régler la question avec plus ou moins d'enthousiasme. Et le reste du temps, il est à Rome avec ses copains, il boit, il fait l'amour, avec tout ce qui passe, même des guéris dans Louis XV. Et il est très heureux comme garçon, et il veut surtout pas se poser de questions métaphysiques. C'est pour ça que ça s'appelle Métaphysique du Vampire, le roman qui prend en charge la première aventure de Navarre. C'est mon seul héros récurrent. Et lui, son rôle dans ma vie, c'est de dynamiter toutes mes idoles. C'est-à-dire tous mes vieux mythes adorés, que ce soit les dieux vaudous, les horribles nazis, enfin, tous les grands courants de la SF et du fantastique, Navarre y va et il fracasse le miroir. Le prochain, ça sera Lancelot, ça va être horrible.
Claude, un dernier regard de biologiste et de scientifique sur Plaguers. Qu'est-ce qui, toi, t'a intéressé? Qu'est-ce que tu trouves le plus intéressant en tant que spécialiste?
En tant que spécialiste, c'est-à-dire que, en tant que spécialiste, je suis assez au courant de la science, quoi. Hein. Et là, il s'agit d'un roman qui est assez éloigné de la hard science, quoi. Hein. Donc, on va dire, il est plutôt du côté du continuum proche du fantastique, hein, par exemple. Hein. Là, c'était plus les contradictions qu'il y avait. Je vais utiliser les contradictions, notamment de la fille qui est un corps masculin, qui comment continuer à vouloir à rejeter ce corps-là, ou son copain qui continuait à être amoureux d'elle alors qu'elle n'avait plus du tout d'attribut corporel qu'il fallait. Quoi. Je pense que dans le monde humain, malgré tout, hein, l'aspect corporel compte quand même pour pas mal. Quoi. Donc il était vraiment exemplaire, ce jeune homme, de continuer à aimer l'âme de cette...
L'âme, non, parce qu'il en veut à ses fesses, hein, faut être clair. Mais il se fiche de la forme qu'elles ont, c'est tout. Et cela dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas effectivement dans le cœur dur de la SF, celui qui prend en charge la physique au sens strict du terme. Mais je suis clairement dans la vague anglaise de la science-fiction humaniste et sociale et psychologique. Et de ce point de vue-là, c'est de la hard science. Alors, on peut discuter sur la façon dont j'utilise la science pure, la science dure, ça, c'est ça tout à fait, et je n'en disconviendrai pas. Mais je ne suis pas dans le fantastique, je suis dans les franges light de la hard science. Voilà.
Une petite question avant qu'on passe à l'apéro rituel. Oui, hop, je vous apporte le micro.
C'est bien, maman. J'ai pas besoin, ça va aller. Deux questions indiscrètes. Vous êtes enseignante. Dans un rapport avec la science, vous êtes dans un domaine scientifique.
Je suis prof. Je suis professeur de lettres classiques.
D'accord. Vous avez entendu ça avant moi ? Ah, tu t'en doutais. D'accord. Et puis, est-ce que vous écrivez d'autres romans que de SF ?
Je ne comprends pas la question aussi. Est-ce que j'écris d'autres romans que en SF ? Ah ben, les histoires de Navarre, c'est de l'urban fantasy. C'est-à-dire que tout peut arriver. Il y a des dieux, il y a des déesses. Il y a la reine Titania. Je vous dis, il est là pour détruire tous les mythes que j'ai adorés petite. Donc là, on est dans le pur fantastique tel que décrit par mon camarade. Mais fondamentalement, même Navarre est un héros rationnel. Parce qu'au milieu des dieux qui perdent la boule, au milieu des vampires serial killers, Navarre garde toujours la tête froide et prend des décisions rationnelles. Voilà.
Une autre question ?
Toujours sur les mutations ?
Oui, allez-y.
Vous disiez tout à l'heure qu'elles étaient plus...
Attendez, hop, je vous apporte le micro.
Que les mutations étaient plus souvent négatives, mais en fait, elles sont l'origine de la biodiversité actuelle.
Ah oui, mais pour qu'une mutation soit bénéfique, à la fin de compte, hein, il faut attendre un certain nombre de centaines de milliers d'années ou de millions d'années pour que plusieurs mutations s'ajoutent les unes aux autres. Donne un résultat favorable. Parce que par exemple, si on regarde le roman L'échelle de Darwin, il y a des gènes dormants dans ce roman qui peuvent fonctionner. Et bon, il y a des échecs, bien entendu, mais semble-t-il, c'est trop bien goupillé. On a des mécanismes qui sont trop parfaits d'emblée, d'un seul coup, pour que le lecteur un petit peu scientifique comme moi marche à plein dedans.
D'accord, parce que je pensais, moi, aux mutations des abeilles sanguines, par exemple.
C'est encore l'origine des. Là, je me place plutôt d'un point de vue adaptatif. Hein. Par exemple, si on considère que c'est des animaux qui sont pas très sympathiques, hein, les coyotes ou les hyènes. La hyène, c'est un animal qui mange la viande pourrie très facilement, mais parce qu'il a des enzymes qui permettent de faire ça. Nous autres, les humains, nous sommes des êtres qui mangeons du lait pourri très facilement, parce qu'on a ce qu'il faut pour digérer les yaourts, tout ça. Et il y a des choses qui se produisent, ou qu'on a constaté, par exemple, c'est que là où il n'y a pas de yaourt à manger, autrefois, chez les Chinois, on ne voulait pas de lait, quoi. Alors on disait, il ne faut pas vendre de yaourt dans les supermarchés en Chine, ils ne sont pas capables de le digérer. On s'est rendu compte que petit à petit, en donnant aux enfants, quand on en donnait, ils conservaient à l'âge adulte les enzymes qui leur permettaient de digérer le lait, les yaourts et tout ça. Donc il y a pas mal de choses, et en y allant doucement, on peut faire bénéficier des gens de leur génome caché. Ou leur génome non utilisé.
Oui, c'est une question sur les mutations. Est-ce que là, ce sont des mutations génétiques qui apparaissent. Est-ce que c'est possible pour les humains que nous sommes d'avoir demain une mutation
Alors, des mutations d'un seul coup, je ne vois pas très bien. Quoi. Bon, mais enfin, il ne faut pas refuser à la SF d'utiliser les mutations, hein, puisque il y a tout un sous-genre de la SF qui est la question des mutants. Quoi. Mais c'est un genre qui a été extrêmement fécond à l'époque où il y avait beaucoup d'expériences nucléaires, où on redoutait les guerres nucléaires, où on se disait, s'il y a une radiation massive, on va voir beaucoup de mutations qui vont se manifester dans le genre humain, et peut-être que ça donnera des individus monstrueux.
Et Jeanne, dans le roman, est-ce qu'il y avait aussi un propos sur l'évolution de l'espèce humaine dans son ensemble ?
C'est ce qui arrive à la fin. C'est ce qui arrive à la fin. Alors, curieusement, c'est pas un roman totalement pessimiste, parce que Pleyel se finit bien. Alors que le roman miroir de Pleyel, qui s'appelle La balade de Trash, qui se passe dans le même univers mais sans les Pleyel, lui finit plutôt très mal. En fait, c'est les deux mêmes romans, mais il y en a un qui ne voit pas arriver la plaie pour sauver le monde. Donc, curieusement, aux enfants, j'ai raconté une horrible histoire qui finit très mal, et aux adultes, une belle histoire qui finissait très bien. Donc, l'humanité change et ne change pas. Elle va être plus puissante, plus sereine, mais pas tellement différente.
L'humanité change doucement. Hein. Alors évidemment, la société peut faire que certains sujets vont être avantagés par rapport à d'autres. Est-ce qu'on peut continuer à grandir parce que les gens qui sont grands sont préférés, quoi. Est-ce qu'on va tous être blonds parce que les blondes sont préférées, etc. On a quelques romans où on a une humanité future, on a un surhumain, un surhomme, etc. Il y avait par exemple Slan de Van Vogt, hein, à la poursuite des Slans, donc où les Slans télépathes et plus costauds, etc., seraient les successeurs de l'espèce humaine. Et puis il y avait évidemment toujours avec tous les chers de Darwin, les nouveaux enfants qui pourraient être des humains plus pacifiques et plus calmes que nous le sommes nous. C'est vrai que si on regarde des primates proches de nous, les chimpanzés, les gorilles, bon, c'est policier et ordonné, mais bon, ils sont c'est pas pour votre, quoi. Les plus commodes, ce sont les bonobos, mais pas sinon beaucoup de sexualité. Hein.
Voilà. Cela dit, on n'a quand même pas trop mal changé depuis les cavernes. Si on essaye d'oublier que les deux tiers de la planète sont en train de s'entrétriper ou de crever de faim, on peut quand même considérer que le premier réflexe de l'homme qui voit apparaître quelqu'un d'étranger ne consiste pas à lui cogner dessus. C'est un gros progrès vers la sérénité. Hein ? Et puis, nous pouvons sortir de chez nous sans nous faire automatiquement égorger par des bandes de jeunes abandonnés dehors. Ce qui était le cas au XIXe siècle, où on ne se baladait pas dans Paris sans risquer sa vie. Là, moi, je peux aller dans ma rue, qui est une rue très mal famée, avec des gens qui ont un métier... oui, tarifie leur temps de rêve.
C'est
vous. Voilà. On va le dire comme ça. Normalement, une rue comme ça, au XIXe siècle, personne ne s'en tirait vivant tout seul. Alors qu'il n'y a pas d'endroit plus tranquille que ma rue. Il n'y a jamais un incident, bizarrement. On me dit que Paris est une ville dangereuse, ça n'est pas vrai. Au XIXe siècle, c'était une ville dangereuse. Là, oui, vous étiez agressé, c'est sûr. Là, vous pouvez passer 10 fois au même endroit, il ne vous arrivera rien. Peut-être la 11e, mais les 10 premières, avant, 100 ans auparavant, vous y étiez bon, c'est sûr. Alors, je pense qu'on s'apaise quand même. En tout cas, on se raconte des choses qui font qu'on devient quand même moins des sauvages. Si on a à manger, si on a la bonne femelle ou le bon mâle à la maison, si on a un métier, si le monde est en paix autour de nous, on n'est pas naturellement des sauvages. Maintenant, si le monde fuit, comme en Somalie, comme en Syrie, etc., évidemment, les vieux réflexes ressortent tout de suite.
J'avais tendance à faire une réflexion qui n'est pas de mon domaine, mais plutôt une réflexion sociologique, quoi. Parce que si c'est calme dans ta rue, c'est sans doute qu'il y a un ordre social qui est par le sou.
Non, mais c'est les filles qui l'exercent, elles sont très puissantes, on va dire.
Et je pense que à l'état de nature, bon, peut-être bien que quand ils se rencontraient, ils devaient se foutre beaucoup sur la gueule pour se tester. Quoi. Oui. Et que donc, chez nous, il y a un équilibre. Enfin, il n'y a peut-être pas autant d'équilibre. Enfin, on dit aux enfants un peu trop souvent, tu ne dois pas taper tes petits camarades. Il ne faut pas oublier de leur dire. Et si tes petits camarades te tapent, il faut que tu répondes pour sauver ton prestige. Quoi.
Ça, c'est une réflexion d'éthologue.
Là-dessus, je vous propose qu'on aille inhiber nos pulsions autour d'un verre. On va remercier Jeanne et Claude, et puis vous remercier d'être venus, et puis lisez Plagueurs. Merci à tous.
Maintenant, il faut s'extraire de ces trucs.